Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans le film qui a changé ma vie. Je m'appelle Junior, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Pour celles et ceux qui découvrent ce podcast, je vous explique le concept, c'est très simple. J'ai le plaisir de recevoir un ou une invitée que l'on va apprendre à connaître à travers son expérience de visionnage d'un film qui l'a profondément marqué, au point d'avoir toute une histoire qui l'explique. Il peut s'agir d'un film qui a été une source de vocation ou d'inspiration sur le plan professionnel, personnel, mais cela peut être aussi un objet du 7e art qui fait remonter à la surface divers souvenirs comme une rencontre, une rupture, des moments de joie ou d'autres plus douloureux. L'objectif de ce podcast est de faire que l'histoire que vous allez entendre vous donne envie à votre tour de découvrir ou redécouvrir un long métrage. Petit message habituel, si vous aimez ce podcast et si vous souhaitez m'aider à le faire connaître auprès d'un large public, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict. Je me ferai un plaisir de lire vos messages ici même en fin d'émission pour vous remercier directement. Aujourd'hui, 25e épisode dans lequel vous allez faire la connaissance de la co-animatrice du podcast N'importe Q. Elle s'appelle Jade. Et sa rencontre avec le film The Host a fait naître en elle une immense soif de découvrir un maximum de films de genre. Oui, le cinéma d'horreur, c'est son dada, au point que le film de Bong Joon-ho datant de 2006 l'a rendue totalement amoureuse des films de monstres plus spécifiquement. Avec Jade, on a parlé de journalisme, de cinéma sud-coréen, de Bong Joon-ho, de Palme d'Or, de monstres, de différents métiers dans le monde du cinéma, de la fréquentation de festivals ciné en tout genre ou encore d'animation. Je vous propose de découvrir l'entretien enregistré avec celle qui, à 27 ans, travaille aujourd'hui en tant que chargé de production dans le milieu de l'animation, juste après cet extrait.
Mr. Kim.
Formaldehyde. Dirty formaldehyde. Pour him into the sink.
Bonjour Jade.
Salut.
Sois la bienvenue dans le film qui a changé ma vie. Je suis très heureux de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Bah merci de m'avoir invité.
Et on est ensemble pour parler d'un film sud-coréen. Je vais faire le tour du monde cette saison là. Je sens que on va parler donc du film The Host. Mais avant d'expliquer ton histoire avec ce long métrage, j'aimerais bien que tu nous fasses un petit résumé, un pitch. The Host, ça parle de quoi, Jade ?
Alors, je vais essayer de faire le pitch le plus concis et qui en dit le moins possible sur l'histoire. Dans les années 2000, il y a une base américaine qui est installée près de la rivière Han, du coup en Corée du Sud, qui se débarrasse d'une quantité astronomique de produits chimiques. Et du coup, dans une introduction, au fil des ans, tu vois plusieurs habitants coréens qui repèrent une étrange créature amphibie dans la rivière. Bien des années plus tard, je dirais à peu près, allez, on va dire 10 ans au pif, on switch sur une famille qui travaille à Séoul, au bord de cette même rivière Han, et qui tiennent un petit snack. On y retrouve un personnage qui s'appelle Park Gandu, qui est un mec un petit peu à la masse, qui a une fille adolescente qui s'appelle Young Seo, et qui vit dans ce snack, qui tient ce snack en famille. Une famille qui est constituée du coup du père, du grand-père, et ce personnage a également des frères et sœurs, qui sont respectivement un diplômé activiste un petit peu politique et une championne de tir à l'arc de seconde zone un petit peu ratée. Et toute cette petite famille vit aussi bien qu'ils le peuvent avec leurs problèmes et une vie un petit peu misérable. Et un jour, un immense monstre amphibie apparaît aux abords de la rivière et massacre tous ceux qui y trouvent. Et du coup, dans l'attaque, cette créature enlève la jeune fille Young Seo qui l'emporte dans le fleuve. Voilà, je n'en dirai pas plus.
Ouais, c'est un chouette résumé en tout cas. Donc, je vais t'embêter pour les noms. Alors maintenant, vous avez remarqué, chers amis, qui est les plus fidèles, je me décharge sur les ceux qui ont choisi le film parce que je vais écorcher les noms tout du long. Sinon, je me connais. Donc, je vais te demander, s'il te plaît, de citer le nom du réalisateur et des acteurs principaux.
C'est un film qui est réalisé par Bong Joon-ho. Et au casting, je vais retenir surtout Song Kang-ho, qui joue le personnage principal du père et qui est un acteur qu'on retrouve pratiquement dans toute la filmographie de Bong Joon-ho, qui est un acteur sud-coréen extrêmement connu, que ce soit dans son pays ou à l'international. Et je vais également citer Bae Doona, qui est l'actrice qui joue la sœur, qui est championne de tir à l'arc, qui est connue internationalement, vous l'avez presque tous déjà vu. Je vais penser rien qu'à Sense8, où elle joue l'un des personnages cultes de la série. Et elle a fait plein de films également à l'international, que ce soit avec Bong Joon-ho ou pour des productions américaines.
Pour bien situer, parce que c'est pas un film qui a été vu par énormément de monde en France. Il n'est pas non plus forcément accessible sur les plateformes en ce moment, donc on va essayer de donner un maximum de clés pour bien situer à quoi ressemble le film. Déjà, j'aimerais bien que tu donnes une idée aux auditrices et aux auditeurs de ce à quoi ça ressemble en termes de genre. Est-ce que dire qu'un film fantastique suffit à définir le genre qu'est The Host ? Parce que moi, perso, j'ai vu plein de choses.
Ouais, c'est un film vraiment hybride en fait. Tu sais, c'est un de ces films sud-coréens. Je trouve que le cinéma sud-coréen est hyper fort parce qu'il te fait vivre 36 000 émotions à un film. C'est tu ris, tu pleures, t'as peur. Du coup, t'arrives pas à le ranger dans une certaine case. Mais si je dois définir The Host, je le définis très clairement comme un film de monstre. Pour moi, c'est un film de monstre avec de multiples lectures politiques, même une lecture écologique qui est quand même très présente dans ce film, mais ça reste avant tout un film d'horreur, un film de monstre.
Oui, j'ai noté ça, film de monstre, film fantastique, dystopique, un brin de comédie, un tout petit peu.
Oh, tu te marres quand même surtout bien dans le film, je trouve.
Et surtout un survivor. Enfin, il y a vraiment un peu de tout ça. Alors, j'aimerais bien savoir à quel moment tes yeux se sont posés sur ce film. Tu avais quel âge et c'était en quelle année ?
Je me souviens de ma première rencontre avec The Host, qui n'a même pas été cinématographique. Quand j'étais jeune, mon papa était journaliste, il travaillait dans la presse, il faisait un petit peu de cinéma, il était abonné à une revue qui s'appelle L'Écran Fantastique, qui existe toujours et que je recommande, qui est une très très bonne revue française sur le cinéma de genre. Et je me souviens, ça devait être en 2007-2008, le film étant sorti en 2006, j'épluchais beaucoup ces magazines. Et je détestais les films d'horreur. En fait, c'est pas que j'ai détesté ça, c'est que j'étais une môme, quoi. Donc, je regardais Disney, je regardais des choses très familiales et des films d'horreur. Tu sais, c'est quand t'allais au vidéoclub, parce qu'à cette époque, il y avait des vidéoclubs, tu regardais les jaquettes sur le plus haut présentoir de films d'horreur et tu disais « Putain, ça doit faire méga peur !» Et tu te construisais tout un univers autour de ça. Et moi, j'avais ces magazines qui te traitaient de films de genre, beaucoup de films d'horreur, et qui faisaient beaucoup d'interviews, beaucoup de dessous, comment est-ce qu'on faisait les maquillages des monstres, comment est-ce qu'on faisait les prothèses. Et je me souviens qu'il y avait un numéro sur, et un article spécial dans ce numéro, sur The Host, qui était quand même un petit phénomène dans le milieu du film de genre international, bien que, comme tu le disais, pas beaucoup vu finalement en France, et pas très connu malgré le fait que Bong Joon-ho soit une grande sommité du cinéma aujourd'hui. Mais j'avais vu tout cet article et j'avais vu le monstre. Et le monstre, je l'avais trouvé incroyable. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce film ? Ça a l'air absolument incroyable. Mais j'étais jeune, j'avais pas accès au cinéma et je n'avais pas vu ce film à sa sortie parce que 2006, j'avais 12 ans, j'étais encore un peu jeune, j'avais pas encore vu de film d'horreur, donc c'était pas pour moi. Mais ma première rencontre, elle a été avec un magazine qui expliquait ce monstre avec des photographies, comment est-ce qu'il était fait. J'avais trouvé ça extraordinaire.
Donc ça, c'est avant même de l'avoir vu sur grand écran.
Ouais.
Donc tu étais adolescente. Mais il y a eu quel délai finalement entre la découverte via ce magazine et le fait que tu prennes ton courage à deux mains et que enfin tu te lances pour voir ce film ?
J'ai pas pris mon courage à deux mains en fait. Le destin a fait que je suis rentrée dans un lycée qui est spécialisé dans le cinéma, en fait très artistique, et j'ai intégré en fait une filière cinéma qui me permettait de comprendre le monde du cinéma. Ça m'intéressait, j'aimais beaucoup ça, mais j'étais toujours pas trop au film d'horreur. J'avais peut-être dû voir Jurassic Park et c'était tout, et ça m'avait foutu les boules, mais un point, alors que Jurassic Park, il n'y a pas de quoi faire beaucoup trembler pourtant. Et le fait est qu'il y avait un programme, je pense, qu'on retrouve aussi bien au collège qu'au lycée, qui est collégien et lycéen au cinéma. Donc je crois que tu vois un film par trimestre, encouragé par le CNC, des films qui sont considérés comme cultes ou pas forcément très connus, et tu découvres ces films. Et le fait est qu'en 2010, The Host était au programme. Donc moi, j'ai toute l'émotion qui remonte de ce fameux magazine, de ce DVD que j'avais vu parfois sur des présentoirs sans pouvoir le prendre, sans pouvoir l'acheter parce que c'était pas le contexte et mes parents ils voulaient pas m'acheter des DVD. Et c'était l'occasion de découvrir sur grand écran. Donc j'étais ravie et j'ai été voir ce film justement parce que c'était au programme.
Donc pour info d'ailleurs, le film n'a pas été vu par un grand nombre de personnes en France, comme je le disais, à peine 135 000 entrées, c'est très peu.
Alors je crois qu'en Corée, alors si je ne me trompe pas, en Corée, c'est l'un des films qui a ramené le plus de monde de l'histoire du cinéma sud-coréen. C'est l'un des plus gros succès du cinéma sud-coréen, je trouve ça quand même absolument dingue.
Ouais, hein, ça se compte en millions et millions et millions et millions de dollars de recettes.
C'est ça, alors qu'en France, mais rien du tout quoi, 135 000, c'est rien, c'est misérable.
C'est terrible, donc il devait, je suppose, avoir un nombre d'écrans très réduit lors de sa sortie en plus.
C'est ça, c'est pour ça que je m'estime vraiment très heureuse finalement de l'avoir quand même découvert dans un contexte de salle bien après sa sortie en France.
Là, tu le visionnes enfin, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Qu'est-ce qu'on ressent à cet âge-là? Est-ce qu'on est fasciné? Est-ce qu'on est subjugué? Est-ce qu'on est étonné? Par quelles émotions tu es passé tout au long de ce film?
Déjà, la première émotion, j'avais les boules. Très, très clairement, moi qui n'étais pas habituée au cinéma d'horreur, je pense que j'avais pas vu des grands classiques, j'avais pas vu Shining qui est passé déjà dans ton podcast, je l'avais pas vu. J'avais pas vu Alien, j'avais vu aucun film de monstre à part encore une fois Jurassic Park qui était ma seule référence. Et j'avais peur, j'étais en mode putain ça y est je vais me lancer dans le cinéma un peu d'horreur. Ça fait un peu peur, j'ai lu des choses dans le magazine, qu'est-ce que ça va donner? Je tremblais, j'étais pas bien, en fait j'avais très envie de voir ce film. Et à la fois j'étais pas bien du tout. Et ce qui a fait assez fabuleux avec The Host, c'est que c'est l'aspect film de monstre. Et c'est un film qui est très paradoxal parce que d'habitude, dans les films de monstres, tu ne vois pas le monstre. Tu le vois à la fin, lors d'un affrontement final. Tu prends par exemple Predator, tu prends même Alien, tu le vois à peine. Et c'est ça qui fait qu'en fait, dans le cinéma de genre, faut pas montrer le monstre. C'est pas bien, faut pas le montrer tout de suite. Le fait que tu le vois pas, ça va te faire encore plus peur. Et The Host prend ça complètement à contre-courant. T'as 10 minutes d'introduction où vraiment on te pose un petit peu l'intro, on te pose les personnages et bam, tu te prends une baffe de violence avec un monstre qui est montré mais en plein jour, en plein soleil, il fait beau, c'est une belle journée, t'as des touristes, des pédalos, t'es bien et tu vois le monstre sous toutes ses coutures et j'ai trouvé ça mais dingue et j'ai jamais retrouvé cette sensation pour un autre film de me dire waouh, c'est putain, enfin voir un monstre comme ça qui débarque, c'est vraiment monstrueux. Cette scène, c'est l'une des meilleures scènes du cinéma, à mon sens, c'est totalement terrifiant, vraiment.
Sans vilain jeu de mots, en effet, hein, quand tu dis monstrueux, sans vilain jeu de mots, bref, c'est vrai que c'est assez déroutant parce qu'on pense pas qu'il va surgir si vite, ce monstre-là en question.
Non, du tout.
C'est l'une des forces du film, en effet.
C'est vrai que c'est fantastique et tu le vois même pas arriver. Je me souviens que la première scène, j'ai revu le film pour l'émission, mais je le connais déjà par cœur, si tu vois la créature qui arrive vraiment en fond. Je me souviens quand j'avais vu ce film pour la première fois, je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'il y a à l'écran? Et je pense que tout le monde a dû réagir comme ça en se disant, qu'est-ce que c'est que ce truc qui apparaît à l'écran? Tu comprends pas, en plus, comme c'est une créature qui a été designée spécialement pour le film, qui est unique, t'arrives même pas à associer ça à quoi que ce soit. Et en fait, tu te prends ça dans la gueule, et tu te prends, je pense, cette scène, elle doit durer 10 minutes au moins, 5-10 minutes, 10 minutes. Ouais. Tu dis, waouh, et plus ça va, plus c'est violent, plus tu comprends rien, et c'est une panique, c'est paralysant. Je me souviens avoir été paralysée dans mon fauteuil devant cette scène.
Pour expliquer à ceux et celles qui n'ont pas vu, c'est des gens qui sont le long d'un fleuve, en fait, posés autour d'une boutique, une espèce d'épicerie ambulante. Et d'un coup, le fait que cet animal multiforme là, sorte du fleuve surprend tout le monde qui se met à fuir au fur et à mesure en attrapant son voisin par le bras et en essayant de fuir le plus loin possible.
C'est ça, et tu vois des gens se retrouver pris au piège, tu vois des gens se faire piétiner, tu vois vraiment un mouvement de panique. Et ce mouvement de panique, j'espère ne jamais vivre une scène pareille, ni de rencontrer de créatures pareilles, mais pour moi ça ressemble à une vraie scène de panique. Tu vois ce que je veux dire? Si je me dis, si un jour il se passe quelque chose, pour moi ça ressemblerait à ça.
En plus, pour prolonger ce que tu dis, il y a un moment que je trouve extrêmement marquant, c'est quand tous les gens se réfugient dans le conteneur.
Oh, elle est atroce, cette scène.
qui on lui claque la porte au nez parce qu'elle pensait être en sécurité en rejoignant ce container et se dire merde, je suis coincée, je vais me faire bouffer par la bête. Et en fait la bête ne s'occupe absolument pas d'elle.
Oui, et elle arrive à, je me souviens, elle passe par-dessus la barricade et elle se casse en mode oh punaise, finalement, j'ai sauvé mon cul, quoi.
Exactement.
C'est assez impressionnant et cette scène, elle est incroyable. Et je pense que tu vois, pour moi qui n'étais pas habituée à voir des films d'horreur et qui était vraiment un peu sensible là-dessus, voir cette scène rapidement, sans y être préparée, et aussi bien mise en scène, parce qu'il faut dire tout de même que c'est une très belle mise en scène, et la créature, je la trouve bien faite, malgré le fait que les puristes diront que ça a vieilli. Moi, je trouve que c'est toujours aussi bien fait, mais c'est terrifiant comme scène.
Ouais, de par sa façon de déplacer, parce qu'elle se déplace avec sa queue, par exemple.
Elle se déplace avec sa queue, tu la vois pas tout de suite se déplacer avec sa queue, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que plus le film passe, plus tu découvres le monstre sous plein de facettes différentes.
Comme nos personnages, finalement, comme cette famille, qu'on prend à un niveau, finalement, très basique, ils ont l'air aussi demeurés les uns que les autres, et la confrontation avec ce contexte complexe fait qu'ils sont dans l'obligation de grandir et de réfléchir, de s'organiser, de s'entendre. Mais on va y revenir sur tout ça.
Papy !
Laisse-le tranquille, faut qu'il bosse, lui.
Mais pourquoi ?
Allez,
on doit tous encourager Tata. Papy !
Laisse le vieux griller, c'est calamar, tranquille.
Voilà qui est fait. C'est le parc d'Amjou qui va tirer sa volée de flèche, la première, ce qui n'est pas forcément.
Tiens, une bière fraîche. Tiens.
C'est une athlète très régulière.
C'est de l'alcool.
Mais
quoi, tu vas au collège, non?
T'es bizarre comme père, toi.
Ben moi, quand j'allais au collège... Hey, c'est la demi-finale. Ah, oh, l'autre, elle a l'air balèze.
Sa deuxième et surtout sa troisième volée avait été catastrophique.
Sa mère.
Allez, par Damjou. Ah, mais vas-y, tire. Pourquoi elle est aussi lente que ça? Personne est aussi lente.
Allez, papy, viens regarder avec moi.
C'est la
médaille. Je peux pas regarder quand c'est ma fille, ça me rend trop nerveux.
Mais cette fois, c'est la médaille d'or.
Hey, Pando, viens avec moi une minute.
Je regarde le tournoi, là.
Ah, viens avec moi.
Dans ta vie, tu en es où quand tu vois The Host? Ça y est, tu rejoins, d'accord, une formation en cinéma.
Ouais.
Déjà, comment tu t'y sens dans cette formation?
Je m'y sens bien, parce que je suis contente. Le cinéma, c'est toujours quelque chose qui m'avait profondément touchée. Je suis très sensible au cinéma. Et pour la première fois de ma vie, je me retrouve dans un contexte où je peux découvrir le cinéma sous plein de facettes différentes, des facettes que je connaissais pas vraiment. Et en intégrant cette formation, j'avais qu'une envie, c'était d'en découvrir davantage. C'était découvrir des choses qui n'étaient pas accessibles auparavant, d'une manière ou d'une autre. J'avais quand même eu la chance d'avoir une famille qui m'a culturellement... vraiment montré plein de choses quand j'étais jeune, vraiment des vieux films. J'étais très fan de Chantons sous la pluie, je regardais du Chaplin, j'avais quand même une culture américaine du cinéma très très poussée. Mais cette formation, c'était l'occasion d'en découvrir plus et aussi de découvrir tous les métiers qu'il y avait autour du cinéma. Et voilà, plus tard, spoiler alerte, j'en ferai ma vie professionnelle.
Justement, est-ce que ça fait naître l'envie d'en découvrir aussi toujours plus d'autres films d'horreur, ou est-ce que tu as eu besoin d'un moment de digestion de ce film et de te dire, avant de me replonger dans ce cinéma d'horreur face à d'autres œuvres, j'ai vraiment besoin de digérer ce que je viens de voir?
Ah bah je l'ai digéré, je me suis dit waouh, le cinéma ça peut être ça. En fait, je me souviens qu'en sortant de la salle avec mes camarades qui eux n'étaient pas aussi convaincus que moi, je m'étais dit waouh, le cinéma ça peut être ça. Ça peut être aussi incroyable, aussi horrifique. Oh, excuse-moi, j'ai juste mon chat qui est en train de faire des conneries. Phil Cookie, ça suffit.
Ça nous fait un happening pour l'émission, ça me va.
Voilà, moi aussi j'ai un monstre dans mon appartement, il a quatre pattes, il est poilu, il est adorablement démoniaque. Mais oui, c'était assez spécial de me dire que le cinéma ça pouvait être ça, et ça pouvait être ce genre d'horreur en fait. Et je me souviens que pendant mes années lycée, j'ai bouffé tous les films, j'ai tout vu, j'ai épluché, j'ai tout fait, je me suis précipitée sur Alien, j'ai eu la peur de ma vie. Et ensuite, plus le temps passait, plus j'étais plus une trouillarde, quoi. Je pouvais voir des films et j'étais limite blasée. Enfin, aujourd'hui je vois un film d'horreur, je suis blasée, j'ai un autre regard.
Tu connais les artifices?
C'est pas que je connais les artifices, c'est que j'ai vu tellement de choses, et aussi j'en ai fait mon travail pendant un temps, parce que j'ai été chroniqueuse et critique de films d'horreur. J'ai hanté les festivals de films de genre parisiens, j'ai été à Cannes, j'ai été à Berlin, voilà, c'est vraiment quelque chose où en fait j'ai vu tout ce que je pouvais voir. Au bout d'un moment, je pense autour de 20 ans, j'ai dû voir à peu près tout ce qu'il y avait de regardable, vraiment une énorme partie du cinéma de genre horrifique, monstrueux. Et quand t'es comme ça, tu fais ok, comment est-ce que je fais pour me nourrir de films, vu que j'ai vu tout ce qui était très bon déjà à prendre. Je pense avoir vu vraiment beaucoup de choses très très bonnes. le reste n'est pas aussi accessible, eh ben, je suis passée au festival de films de genre, qui est le meilleur moyen pour découvrir plein de films extraordinaires, de plein de genres différents, d'horreur, de thriller, de monstres, tout ce que tu veux, et c'est des choses que tu ne verras jamais dans les salles de cinéma françaises, parce que trop difficile à distribuer, parce que trop unique, parce que ça ne trouvera pas son public, et en France, c'est vrai que le cinéma de genre et le cinéma d'horreur, c'est encore un cinéma qui a du mal à trouver son public et à vraiment s'implanter dans le paysage audiovisuel français.
Pour caricaturer, hein, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Jade, mais en fait, évidemment, les films atterrissent dans des salles de cinéma, des exploitants de salles, et le but est qu'il y ait un maximum de monde qui vienne dans les salles. Et on programme de moins en moins de films d'horreur parce qu'on sait que le nombre de fauteuils occupés sera faible.
C'est ça, en fait, le cinéma déjà, aujourd'hui, on pense au cinéma en termes de rentabilité et plus en termes de créativité. Et c'est vrai qu'on a perdu beaucoup quand tu regardes le cinéma américain, les sequels, les reboots, les remakes. Aussi, rien que tu regardes Marvel, moi je trouve ça d'une pauvreté un peu affligeante.
On capitalise sur des marques connues.
Exactement, comme je te dis, c'est vraiment, on parle en termes de rentabilité. Et le fait est que le meilleur moyen que tu as pour faire des entrées, c'est de faire des films familiaux, de faire des films que les enfants iront voir, les adolescents iront voir et les parents iront voir. C'est les films grand public. Le problème avec les films d'horreur, c'est que ça s'adresse à un certain public et à une certaine tranche d'âge. C'est pour ça que les films d'horreur sont très aseptisés aujourd'hui et font tout pour essayer d'être en moins de 12 ou 13 ans, mais au-dessus, c'est pas possible parce que le public qui va avoir beaucoup de films d'horreur également, c'est le public adolescent. Et si t'enlèves les adolescents, ça te fait encore moins de place. C'est en fait, plus tu vas faire un film violent et d'horreur, plus tu vas avoir une interdiction pour moins de 18, moins de 16, bon, moins de 18, je crois que j'ai jamais vu ça, ou très très rarement, mais plus tu auras une interdiction élevée, moins tu auras de public touché. Sachant que ce public que tu retires, c'est le public qui va beaucoup voir de films parce qu'il a du temps, et aussi les ados, ils aiment bien se faire peur. Donc c'est con de perdre le public adolescent.
Et tu en es la preuve vivante ? Parce qu'en plus, ça peut être pour eux une porte d'entrée vers le cinéma et d'avoir leur propre culture cinématographique aussi, même si c'est un cinéma spécifique. C'est dommage de bloquer ça, en effet.
Je suis bien d'accord.
Tu as la vingtaine, ça y est, tu as gobé énormément de films. Quand est-ce que The Host est revenu dans ta vie ? Est-ce que c'était, comme pour ton premier visionnage, le fruit du hasard, ou est-ce que cette fois c'était volontaire, tu t'es procuré le DVD, le Blu-ray, et on se dit, allez, je vais me le remater, peut-être même le partager.
Alors, la fois où ça s'est reproduit, c'était justement pour mes études, je pense quand j'avais justement 20 ans. Je suis en faculté, je suis dans un DUT, je fais une formation, information communication spécialisée dans le métier du livre, dans une ville qui s'appelle La Roche-sur-Yon, dans l'ouest de la France. Et il y a un festival du film français qui est plutôt... Non, c'est même pas un festival du film français, pardon, c'est le festival du film de La Roche-sur-Yon, tout court.
Donc on est en Vendée, hein. Je précise pour ceux qui cherchent, voilà. On est en Vendée.
En Vendée. Et ce festival, il est plutôt connu en France. Et ma formation devait en fait organiser et participer à ce festival. Et il y avait une nuit blanche qui était organisée. Je me souviens que c'était ma première nuit blanche de film, la première d'une longue série. Et le thème de cette nuit, c'était les films de monstres. Et devine quel film se retrouve dans la sélection à mon plus grand plaisir. Donc je le redécouvre à ce moment-là. J'avais même pas pris le DVD, j'avais rien fait. Je pense que j'étais restée sur cet unique visionnage qui m'avait foutu la claque de ma vie. Et je redécouvre le film. Je crois que c'était le premier film à passer de la nuit blanche, ou peut-être le deuxième, donc j'étais pas trop pétée, j'étais pas trop fatiguée. Mais pareil, énorme claque, je me retrouve encore... Je me retrouve encore subjuguée par les images que je vois, et une semaine plus tard, je me procure le DVD d'une manière ou d'une autre et je fais un DivX que je garderai à vie et que j'ai toujours.
Et qui m'a été bien utile pour préparer cette émission.
Ah, la version française. Je crois que j'avais jamais entendu la version française et j'ai écouté quelques extraits pour t'envoyer justement les extraits français. Oh là là, j'ai mes oreilles qui ont saigné. Hein.
Ouais, c'est particulier, hein. C'est clair que c'est... Ouais. J'essaie de basculer et il y a comme un voile en fait. La version française met un voile sur les émotions qui transpirent, notamment du père qui met tout en œuvre pour sauver sa fille, et c'est dommage, il y a une perdition en tout cas en termes d'émotion.
Les doubleurs n'étaient pas au top de leur forme, j'ai pas envie de dire qu'ils étaient pas doués, mais ils étaient pas les plus impliqués dans un film.
On est d'accord, ouais. On a évoqué tout à l'heure une scène qui t'a déjà happé dans les 10 premières minutes, bon ça c'est cool pour mes extraits, donc merci Jade, mais est-ce que tu pourrais m'en citer d'autres qui vraiment t'ont chamboulé, que ce soit des dialogues particuliers, des échanges particuliers ou des plans visuels ? Quels passages t'ont vraiment marqué et font encore partie de toi aujourd'hui ?
Oh là là, alors j'ai déjà envie de tomber dans la facilité en disant... toutes les scènes avec le monstre en fait, j'aime tellement les films de monstres, j'ai développé un amour pour les films de monstres et... Toutes les scènes où il y a la créature, et je suis très heureuse parce que c'est un film qui montre beaucoup le monstre et où il y a beaucoup de scènes. Et toutes les scènes dans les égouts, je me souviens que justement, la jeune fille se fait enlever. Alors, si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez garder la surprise, arrêtez maintenant ce podcast, vous le réécouterez plus tard et allez voir le film d'une manière ou d'une autre parce que je vais un petit peu parler, je vais un petit peu spoiler. Donc cette jeune fille est enlevée, on pense qu'elle est morte dans un premier temps, mais en fait on se rend compte qu'elle est vivante, qu'elle a juste été recrachée dans ce qui est l'antre du monstre, et on va voir toute une partie du film où elle va essayer de survivre, où elle va essayer de sortir un petit peu de ce puits, une espèce de fondement dans les égouts, où elle se retrouve vraiment prisonnière, elle n'a aucun moyen de sortie, et toutes ces scènes-là, elles sont fantastiques. Je me souviens d'une scène où le monstre revient de temps en temps, il recrache une montagne d'ossements et de corps humains, et à un moment il recrache un petit garçon qu'on voit dans une scène précédente qui a été capturé par le monstre également. Ce petit garçon, il a réussi à être vivant et à survivre à la créature. Et la jeune Yoon Se-ho, à un moment, prend toutes ses balls et décide d'essayer de sortir du puits. Elle s'est fait une petite corde de vêtements avec les cadavres et elle a réussi à l'envoyer, à l'accrocher sur une grille. Mais la seule manière qu'elle a de grimper cette corde de vêtements, c'est de grimper sur le monstre qui est endormi. Cette scène, elle est incroyable, où tu la vois prendre son élan, se précipiter, sauter sur la créature et rester en suspens dans les airs. Et tu te rends compte que c'est la merde. Elle est incroyable, cette scène. Rien qu'en parler, ça me fout les poils.
Il y a notre président qui, pendant la crise sanitaire, disait qu'à un moment donné, il fallait enfourcher le tigre. Ça n'avait aucun sens, d'ailleurs. Elle a dû enfourcher, chevaucher, grimper sur ce monstre afin d'essayer de trouver l'issue de secours.
Ouais. Et spoiler alerte, bon, c'était une idée moyenne. Mais bon, elle a essayé. On ne peut pas lui reprocher d'avoir essayé. Après, c'est vrai que je parle beaucoup du monstre, mais je trouve que Vio, c'était aussi la première fois que je voyais un film avec d'aussi bons anti-héros. Et tu l'as souligné tout à l'heure, c'est que la famille, elle est géniale. Moi, je les trouve tous aussi pépites les uns que les autres. J'ai une affection particulière pour la sœur championne de tir à l'arc qui est vraiment à la masse. Et il y a des scènes qui sont tellement drôles avec elle. C'est des anti-héros absolument fabuleux. Et tu peux pas ne pas les aimer.
Je n'ai pas aimé tout le film, mais leur trajectoire est extraordinaire, vraiment intéressante. En effet, c'est une ratée. Hein. Elle obtient la médaille de bronze.
Enfin, c'est pas une ratée, tu vois, t'as envie de dire au bout d'un moment, c'est une médaille de bronze. Mais c'est pas une winneuse.
C'est pas une grande championne, quoi, mais elle s'arme de courage pour devenir la grande championne qu'elle a toujours rêvé d'être et être profondément importante dans l'intrigue. J'en dirai pas plus. Je vous laisse voir le film jusqu'au bout. Pour bien comprendre de quoi je parle.
Elle est trop mignonne sur cette photo.
C'est vrai. Elle ressemble tellement à sa mère sur celle-là.
À ton avis, sa mère sait que Yoon Se-ho est morte?
Non. Elle n'a pas donné de nouvelles depuis 13 ans. Après l'accouchement, elle est partie. À sa place, j'aurais fait exactement pareil.
Dormir?
Arrête.
Comment tu peux dormir?
Non mais...
Comment tu peux dormir?
Fiche la paix à ton frère.
Et une dernière scène que j'aime, je pleure à la fin de ce film, la scène finale avec le monstre, je vais rien dire, voilà, je vais vraiment limiter les spoilers, mais la scène finale avec le monstre, je pleure à chaque fois, je trouve cette scène d'une émotion mais tellement forte, que ce soit pour la mort du monstre, que je trouve aussi absolument horrible, c'est... Voilà, cette scène, elle me fait vraiment pleurer à chaque fois toutes les larmes de mon corps. Je trouve cette scène fantastique.
Quand tu fais ton DUT Infocom, on est loin du cinéma?
Ouais, non, mais je te dis, j'ai un peu tergiversé dans ma trajectoire universitaire et professionnelle. J'ai fait mon lycée de cinéma. Et je sais pas pourquoi je me suis dit à l'époque, je sais pas, j'en ai marre du cinéma, ça fait 3 ans que j'en bouffe. Ah, c'est mieux les livres. Et je suis allée vers les livres. Et c'était une énorme connerie. Hein. J'ai changé d'avis immédiatement. Je suis retournée, je suis devenue chroniqueuse, je suis retournée dans le journalisme après pour devenir chroniqueuse justement de cinéma. Et honnêtement, voilà, c'était un petit détour nécessaire pour me rendre compte qu'en fait, le cinéma, j'en ai besoin dans ma vie et je veux travailler dans ce domaine.
L'important est de s'en rendre compte, en effet.
Exactement.
Tu rédiges des papiers d'abord.
Ouais.
Tu parles en tant qu'observatrice du cinéma. Mais quand on est observatrice, ça n'a rien à voir avec le fait de soi-même exercer, d'être un maillon de la chaîne dans un film, dans une fiction, dans une série. Comment on passe d'observateur à acteur du monde du cinéma? Comment ça s'est construit dans ton esprit, ça ?
C'est particulier, en fait. Je pense que ma vie tout entière se construit avec « j'en veux plus ». Et c'était plus de films d'horreur, plus consommer de films, plus voir, et plus ressentir ces choses. Le cinéma, ça m'a vraiment aidé à me construire, à ressentir les émotions, à essayer de m'apprivoiser, à comprendre ce que j'aime, ce que j'aime pas, comment ressentir les choses. C'est quelque chose vraiment d'extrêmement important, et j'en venais voulu plus. Et je me souviens, bon, il y a eu cet aparté où je me suis dit, oh, je vais travailler dans le livre. Et je suis revenue en journalisme en disant, voilà, j'en veux plus, je veux parler de cinéma. Il me faut plus de cinéma, je dois en parler, je dois devenir journaliste. Le fait est qu'être journaliste en France, c'est très compliqué d'en vivre, c'est très compliqué de se faire une place, particulièrement quand tu veux être journaliste culturel, que ce soit dans la littérature, dans la musique, dans le cinéma, les places sont déjà prises, les places sont chères. Si tu n'as pas fait de grande école de journalisme, autant te dire que tu vas vraiment galérer. Moi, c'est ce qui s'est un petit peu passé. Après, le fait est que j'ai fait du webzine plus que du gros magazine, donc c'était vraiment très très cool. Et en voyant ces films, en allant de festival en festival, en rencontrant des réalisateurs, en rencontrant des producteurs, je me suis dit, punaise, je ne veux pas qu'en parler, je veux en faire. Je voulais pas être forcément réalisatrice, je me souviens que j'avais tenté la Fémis, ouais, je l'ai pas eu, hein, et je suis pas déçue de pas l'avoir eu, très, très honnêtement. Et du coup, je décide de me lancer, d'essayer de faire de la distribution, en me disant, ok, les gens, ils aiment bien quand je leur recommande des films. La distribution, ça me permet... je sais pas si tu sais ce que c'est, alors je vais remettre un petit peu en contexte. La distribution, c'est de l'achat de droits. C'est de l'achat de droits de films internationaux pour qu'ils soient diffusés en France. Ça veut dire que dans un premier temps, tu vas acheter les films. Dans un deuxième temps, tu vas les programmer dans les différentes salles. Donc, tu vas voir combien de copies, dans quelle salle il va être distribué. Et dans un troisième temps, ça va être toute la communication autour de la sortie de ce film. C'est-à-dire les relations presse, l'organisation d'avant-première et événementiel.
C'est ce qu'on avait évoqué dans l'épisode sur Devdas, la distribution en effet. Mais c'est bien de le rappeler pour nos auditrices et auditeurs pour qui ça peut rester flou. En effet, on parle beaucoup de distributeurs, d'exploitants de salles, de producteurs. Et ce sont des métiers bien distincts.
Exactement, ce n'est pas forcément les métiers auxquels... Tu penses en premier quand tu parles de cinéma. Et c'est vrai qu'au lycée, quand je faisais ma petite licence, on t'apprenait à écrire des films et à les réaliser. Et en tant que lycée, hein, c'était pas la Fémis, c'était rien du tout, mais tu vois, à part des catégories très techniques, en fait, je connaissais même pas le métier de distributeur. Et du coup, je me retrouve à essayer de faire de la distribution. Je décroche un stage dans une société de distribution très connue en France. Qui avait distribué, je me souviens quand j'étais en stage, qui avait distribué la Palme d'Or de l'année. Et ça s'est pas très bien passé, je me suis pas entendue avec l'équipe, pour la simple et bonne raison que je me suis rendu compte que dans la distribution, en fait, c'est beaucoup de gens d'école de commerce, c'est beaucoup de gens qui voient le film comme quelque chose de monétaire, de périn.
Marketing.
Voilà, et c'est pas forcément la même vision que j'avais d'eux. Et j'avais fait mon mémoire cette année-là sur justement la distribution, le film de genre en France, la distribution de films de genre en France, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que ça trouve son public. Et j'avais rencontré le patron d'une boîte de distribution qui est vraiment très très bien et qui s'appelle The Jokers. Et j'avais rencontré le patron, et je me souviens quand j'avais dit que je voulais bosser dedans, il m'a dit « Oublie, franchement, c'est un enfer, il faut pas que tu essayes de distribuer de films de genre, on n'arrive pas à en vivre. » Alors, pour la petite anecdote, ce patron a distribué un film de Bong Joon-ho qui s'appelle Parasite, et il a apparemment aussi participé à la production du film, ce qui fait que aujourd'hui sa boîte est blindée. Donc je suis très content pour lui, et je lui souhaite tout le plaisir du monde, parce que franchement, il fait un travail incroyable, et il nous distribue des pépites incroyables. Mais voilà, c'est vrai qu'après ce discours, je me suis dit, la distribution, c'est pas pour moi, ça a pas l'air d'être trop mon univers, mais il faut que je participe au film. Et je me suis tournée vers la prod.
Voilà, et les recherches derrière ont débouché sur de la prod. Ouais. Arriver dans ce milieu-là et de mettre le pied à l'étrier, ça s'est fait facilement ?
Ça s'est pas fait très facilement. En fait, j'ai décidé de prendre le chemin de la production de dessins animés, donc d'animation, qui est un cinéma que j'aime d'un amour incommensurable, au moins autant que le cinéma d'horreur. Et cinéma d'animation et cinéma d'horreur peuvent être compatibles, même si c'est plutôt rare. Et du coup, j'ai fait l'école des Gobelins. Et voilà, je travaille dans la production d'animation, je suis chargée de production. Donc ça a été un petit parcours pour avoir cette école, et ça a été un petit parcours, voilà, de manière générale, j'ai fait une alternance, j'ai fait voilà, j'ai eu plusieurs postes. Mais voilà, aujourd'hui, je suis bien à ma place, je m'y sens très bien et je suis sur le point potentiellement d'accomplir un grand rêve. Donc je suis très heureuse, en tout cas, d'être à ma place.
Elle le dit très modestement, mais les Gobelins, c'est juste l'une des écoles d'animation les plus prestigieuses de France. C'est là où des certains Pixar et DreamWorks viennent piocher des futurs jeunes pousses animateurs qui peuvent les rejoindre. C'est aussi, je pense, à Lascar, notamment, cette série animée qui était passée sur Canal.
Qui est devenue un film très fun, qui est sur Netflix d'ailleurs, si vous voulez le voir. C'est très fun.
Voilà. Ils sont passés par cette école-là. Enfin, vraiment, c'est extrêmement prestigieux. Je tiens à le souligner.
Bah, après, prestigieux, c'est les animateurs, hein. Producteur en soi, cette formation elle est vraiment très peu connue et ouais après bon, c'est vrai que ça met des étoiles dans les yeux de passer par les Gobelins, j'avoue.
Les examens médicaux approfondis ont révélé à l'équipe soignante de la base américaine la présence d'un virus inconnu dans les tissus qui ont été en contact avec la créature.
Non, je ne peux vous donner aucune information sans avoir eu l'accord des autorités américaines.
L'armée américaine a envoyé un échantillon du virus au centre américain de contrôle sanitaire. Les experts médicaux de l'armée américaine ont annoncé que la créature du fleuve Han était probablement l'hôte de ce virus, tout comme la civette chinoise était l'hôte du SRAS. Toutes les unités militaires qui avaient été envoyées à la poursuite de la créature pour la capturer ont été évacuées afin d'éviter toute contamination. Seules les cellules mobiles d'intervention chimique de l'armée et les entreprises de décontamination agréées pourront accéder aux berges du fleuve Han.
Et ton métier à quelqu'un qui n'y connaît rien, tu l'expliquerais comment ?
Oh là là, alors là, vaste sujet, surtout l'animation, c'est tellement technique. Alors, un film d'animation, il y a plusieurs étapes pour en faire. Donc, vous avez la pré-production, vous allez développer le film et faire le storyboard. Et ensuite, selon que vous faites de la 2D ou de la 3D, ça va pas du tout être les mêmes processus, mais en gros, vous avez besoin de chargés de prod à chaque département, à chaque grand processus pour pouvoir un petit peu chapeauter tout ça. Donc ça dépend, si vous êtes dans une grande société, ce qui est le cas pour moi en tout cas aujourd'hui, vous allez plutôt chapeauter et vous allez vérifier que tout se passe bien, que vous rentrez dans les clous, que vos équipes, tout se passe bien pour elles, que voilà, votre planning tient la route, vous faites des plannings, vous travaillez avec le ou les réalisateurs. Et si vous êtes dans une plus petite société de production, ce qui était mon cas quand j'ai commencé, vous pouvez faire du recrutement, vraiment mener un projet de A à Z. Et en fait, comme je travaillais dans la publicité, c'était des projets très courts, ce qui fait que j'intervenais à toutes les étapes de fabrication du film, de la pré-production, jusqu'à ce qu'on appelle le compositing et la livraison du film au client.
Waouh, c'est extrêmement riche,
c'est
et divers,
vaste.
Et source de pression, je suppose, aussi, pour tenir les deadlines, pour tenir les budgets.
Ouais, dans la pub, c'était assez... c'était assez intense. Je vais dire ça comme ça. C'est maintenant, je travaille sur une grosse production qui s'étale dans le temps, donc c'est d'autres contraintes, mais c'est un petit peu plus smooth. Je retrouve pas cette précipitation que j'ai dans la pub.
Là, tu as quel âge quand tu accèdes enfin à ces responsabilités ? Et on est en quelle année ?
25 ans. C'était il y a 2 ans, à peu près. C'est ça, 25 ans. C'était il y a 2 ans.
Et c'est ce qui te fait vivre aujourd'hui,
ouais.
D'ailleurs.
C'est ça, c'est ma principale activité qui me demande beaucoup de temps, donc c'est déjà pas mal.
Pour en revenir à The Host, les visionnages les plus récents de The Host, en dehors du podcast, c'était pour quelle raison ? Pour quel motif ? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de s'y replonger quand on le connaît par cœur ?
Quand on le connaît par cœur, les sensations, le monstre, moi encore une fois, c'est j'ai développé un œil en travaillant dans le cinéma et en regardant énormément de films. J'ai développé un œil qui fait qu'à chaque visionnage, j'essaye de me concentrer sur un aspect très particulier. J'essaye de me concentrer sur la mise en scène, j'essaye de me concentrer sur les différents axes, parce que comme je l'évoquais en début d'émission, il y a plein d'angles et de lectures différentes avec The Host. Donc je me souviens qu'il y a une fois, j'ai vraiment essayé de me concentrer sur l'aspect politique, peut-être social, un autre aspect écologique, l'aspect vraiment film de monstre. En fait, t'as plein de manières de voir ce film, et je pense que plus tu le regardes, plus tu vas découvrir une nouvelle facette auquel t'avais pas forcément pensé auparavant.
Il y a des personnages auxquels tu t'identifies dans ce film, ou pas du tout ?
Ah, c'est très étrange comme question. Bah, tu vois, je me dis, forcément, t'es obligé de te rapprocher des personnages principaux. Donc tu dis, ok, je me retrouve face à cette grosse créature, par rapport à qui je me représente. Franchement, peut-être par rapport au frère un peu limite anarchiste. Très honnêtement, vu mon caractère, je pense que ce serait plutôt lui auquel je m'identifierais le plus.
Tu parles d'un côté anarchiste, mais enfin, est-ce que tu pourrais nous le décrire justement pour les auditrices, les auditeurs qui n'ont pas vu, qui ne savent pas qui est ce personnage du frère?
C'est même pas anarchique, en fait, je dis peut-être ça dans le mauvais sens du terme, mais c'est un personnage de frère, c'est un diplômé, et il faut savoir qu'à cette époque, en Corée, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient de longues études et qui ne trouvaient pas forcément de travail. Parce que voilà, le travail, c'est comme en France, hein. Il y a plein de personnes qui font des très longues études, et c'est pas parce que tu fais des longues études que tu trouveras un travail. Et en Corée, surtout dans les pays asiatiques, même de manière générale, en Corée du Sud, la réussite c'est important, le côté professionnel ça stigmate et ça formate ta vie. Et lui, il est un peu considéré comme un raté parce qu'il a pas de boulot, quoi. Il est vraiment au chômage malgré le fait que tu vois qu'il est éduqué, tu vois qu'il a une culture, et il se bourre la gueule. Je me souviens qu'il y a une scène, je crois que la première fois tu le vois, c'est on annonce qu'il a été au conseil de classe, au conseil de classe de la petite, mais complètement bourré. C'est quelqu'un qui est vraiment à côté de ses pompes et qui arrive pas à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Et c'est vraiment un personnage qui va avoir un rôle clé. En fait, ils ont tous un rôle clé dans le sauvetage de la petite, qui va vraiment être beaucoup plus rattaché au social, qui va essayer de se rapprocher, de communiquer avec plein de petites sources de manière un petit peu en tsum-tsum pour pouvoir réussir à avoir des infos sur où serait la petite, récupérer le plan des égouts, y prendre des risques.
Sous-marin, tu veux dire?
De quoi?
En sous-marin, tu veux dire?
Vraiment.
T'as utilisé une expression, j'ai pas compris.
En tsum-tsum, ouais, pardon, c'est ça, en discrètement, quoi, en sous-marin. Et c'est vraiment ce personnage-là qui va prendre énormément de risques, parce qu'en fait, la famille, comme elle est considérée comme contaminée, les personnages s'échappent pour aller retrouver la petite, et ils sont recherchés dans toute la ville. Mais vraiment, genre, il y a des panneaux avec leur tronche dessus, et c'est vrai que c'est le frère qui prend énormément de risques, en demandant, par exemple, à des connaissances à lui de l'aider, de retracer pour avoir le plan des métros, qui arrive à avoir des contacts un petit peu chelous, et en fait, tu te rends compte qu'à chaque fois, ces contacts essayent de le trahir ou de les récupérer, parce qu'il y a une récompense pour les capturé. J'aime beaucoup ce personnage. Je le trouve très courageux malgré le fait que, tu vois, qu'il est complètement à côté de ses pompes, mais d'une manière un peu spéciale, pas à la masse, mais un peu à côté de ses pompes.
Et c'est pas issu d'une colère intériorisée, justement. Il est fâché contre cette société qu'il a abandonnée, quoi.
C'est très politique, en fait. C'est vraiment le personnage, comme je te dis, il y a vraiment de multiples lectures à ce film. Et c'est le personnage qui a vraiment la lecture la plus sociale de tout le film.
Ça, c'est clair que la politique, il y en a. Hein. On reproche même à la Corée du Sud, dans ce film, hein, pas dans la vraie vie avec le Covid aujourd'hui, de ne pas avoir suggéré l'endiguement de ce virus, quoi.
Ouais, totalement.
Les États-Unis et l'OMS leur reprochent de ne pas être capables d'arrêter les individus en question, peut-être contaminés, plus ce monstre.
Ah bah le monstre, c'est une vaste question, tu vois. Le film a une histoire un peu particulière, c'est que... voilà, moi je m'étais dit, en fait, j'ai vu ce film, j'ai prié pour qu'il y ait une suite. C'est chose que je ne fais plus aujourd'hui, mais je me suis dit, punaise, il y avait un monstre, il y en a bien un deuxième qui traîne dans le coin, s'il vous plaît, faites-moi une suite. Et le fait est qu'il y avait une suite qui était dans les tuyaux jusqu'à très récemment, mais apparemment c'était tellement... techniquement, c'est assez fou. Et tous ceux qui ont essayé de faire... il y a eu une suite et un remake américain dont il a été question, ça a tellement été techniquement compliqué qu'ils ont tous abandonné. Donc finalement, The Host restera peut-être le seul et l'unique de son nom, et il n'y aura peut-être jamais de suite, ni jamais de remake.
C'est ce qu'on appelle une référence.
Ouais, non mais je trouve ça assez fort en fait. C'est le modeling de la créature, il a été fait par le studio qui s'appelle, très célèbre d'effets spéciaux, qui s'appelle Weta Workshop. C'est le studio phare de Peter Jackson qui a fait... Je vais balancer un petit film comme ça, mais Le Seigneur des Anneaux, voilà, qui a beaucoup travaillé sur Le Seigneur des Anneaux, qui a travaillé par exemple, si on parle de films de monstres, qui a travaillé sur le King Kong également de Peter Jackson. Donc voilà, c'était vraiment un studio phare en termes d'effets spéciaux. Et ce qui est très intéressant aussi avec le monstre, c'est que c'est à la fois un mélange de CGI, donc d'images générées par un ordinateur, et d'animatronique. Donc c'est vraiment unique. Je trouve que c'est une fabrication vraiment unique en termes d'effets spéciaux. Voilà, c'est comme dans Jurassic Park, quand vous avez des gros plans de dinosaures, même dans le dernier Jurassic World, c'est des animatroniques, c'est des robots en fait, c'est pas des effets spéciaux générés par ordinateur.
Qu'est-ce que c'est? Et Yunseo?
Yunseo!
Silence. Elle bouge.
Tirez dessus!
Mais attends, ce passage!
Les pas,
les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas, les pas
Balle.
Mais arrête,
je ne vois plus.
Tu veux nous tuer ?
Une fois qu'on découvre ce cinéma-là coréen qui a sa singularité, est-ce qu'on se plonge dans le reste du cinéma coréen ? Est-ce qu'on va creuser les réalisateurs ?
Ah bah oui, il y a un avant et un après, très clairement. C'est quand tu découvres, moi, ce que je considère le cinéma coréen comme un cinéma extraordinaire. Ce sont des réalisateurs de films, mais... Quand tu vois les films de genre, même à l'international, même aux États-Unis, je trouve qu'on n'arrive pas à atteindre le niveau de récit, le niveau de réalisation, d'intention émotionnelle. Je balançais un nom très connu encore une fois, Park Chan-wook, que j'aime énormément, et je conseille d'ailleurs l'excellent Mademoiselle de Park Chan-wook. Mais ouais, tu bouffes du cinéma coréen comme pas possible, quoi. Le Bon, la Brute et le Cinglé, c'est aussi extraordinaire. C'est vraiment, voilà, c'était mon premier film coréen. Tiens, c'est intéressant, je le réalise maintenant. Et ouais, j'ai commencé à aussi mater beaucoup de films coréens et à découvrir un cinéma unique en son genre, aussi bien unique que de qualité.
Avec l'interview qu'on vient de faire, comment tu résumerais ta relation avec The Host ?
C'est une relation profondément passionnelle. Moi, je l'aime d'un amour, c'est un amour platonique. Je l'aimerais toute ma vie et... Oh là là, je sais que ce film, il continuera de me faire vibrer, il me rendra heureuse le temps de 2 heures, il me fera vibrer, il me fera pleurer, il me brisera le cœur, il me fera rire, ce sera peut-être l'une des meilleures relations de ma vie. Et c'est vrai que, en fait, ça m'a apporté tellement, c'est... Peut-être qu'un autre film aurait été déclencheur. Je me dis franchement, si ça aurait pas été Vio, ça aurait été un autre film. Ça aurait peut-être été Alien. Tu vois, peut-être avec le recul, j'aime beaucoup Alien aussi, ça aurait peut-être été Alien. Ou peut-être Les Dents de la Mer ou quelque chose comme ça. Mais franchement, The Host, ça m'a tellement fait prendre conscience de ce que pouvait être le cinéma en termes visuels, en termes d'intention émotionnelle, en termes d'acting, parce que les acteurs sont aussi merveilleux et ils sont extraordinaires. C'est vraiment le film qui m'a fait... Je me suis sentie toute petite à me dire « Waouh, le cinéma, ça peut être ça ». Ça a été une merveilleuse porte d'entrée.
Justement, quelle relation tu as avec le cinéma de Bong Joon-ho ? Est-ce que tu places The Host en haut de sa filmo ou est-ce qu'une certaine palme d'or, je parle du film Parasite, a fini par prendre le pas pour toi ?
Parasite, bon, je vais peut-être faire bondir les gens de son siège, mais déjà, Bong Joon-ho, c'est devenu mon réalisateur préféré après avoir vu The Host. J'ai dévoré sa filmographie, donc si vous ne l'avez pas vu, regardez Memories of Murder, qui est un thriller incroyable. Regardez Mother, qui est un autre thriller incroyable. Regardez Snowpiercer, qui est un blockbuster incroyable. Regardez Okja, qui est un film tellement hybride et incroyable. Et Parasite, où j'ai fait « Ah ouais, c'est tout, c'est bien, hein, mais... » Par rapport à tout ce qu'il a fait auparavant, j'ai pas l'impression que ce soit aussi ouf. J'étais un peu déçue de Parasite, je trouve pas que ce soit un mauvais film pour autant. Hein. Mais franchement, par rapport à tout ce qu'il a fait auparavant, j'étais très déçue. C'est avec ça qu'il va gagner tous ses prix. Bon, bah écoutez, au moins le film est bien.
J'espère que vous avez bien pris en note toutes les recommandations de Jade, en tout cas sur la découverte des films de Bong Joon-ho. Je pense qu'on a bien fait le tour. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter sur ce film, juste au cas où ?
Regardez-le, s'il vous plaît, regardez-le, il est vraiment bien. S'il vous plaît.
Voilà, c'est dit. Ça s'appelle The Host et le film est disponible en France sur la plateforme Orange. Vous pouvez louer
seulement
ou acheter
Orange.
Ce film.
Oh là là, c'est triste qu'il soit pas plus présent ailleurs. Hein. C'est vraiment le grand oublié de Bong Joon-ho, ce film. C'est dommage.
J'ai fouillé, hein, vraiment, je ne vois pas d'autres plateformes malheureusement. Pas d'Apple, qui d'habitude a vraiment un catalogue extrêmement riche. Mm-hmm. Je ne le vois pas, pas sur Univers Ciné. Il aurait pu y figurer pourtant, pas sur Canal VOD ou quoi, rien. Il n'y a vraiment que Orange.
Quand je te dis que le cinéma boude le cinéma d'horreur, tu trouves facilement Memories of Murder et Mother, tu trouves très facilement Transperce Neige, tu trouves très facilement Okja, Parasite également, mais parce qu'il a gagné plein de prix. Mais Vio, c'est toujours le film le plus compliqué, je trouve, à trouver de la filmographie de Bong Joon-ho. Toujours.
Ça va peut-être changer. N'hésitez pas à faire des recommandations aussi auprès des plateformes, des Amazon Prime, des Netflix. On peut envoyer un mail aussi pour avoir ce genre de film. Bombardez-les de mails avec un peu de chance. Ça arrivera peut-être un jour
Inch'Allah.
Sur l'une de ces plateformes. On passe à toute autre chose. On termine le podcast avec 2 recommandations, comme d'habitude. 2 films qui t'ont marqué. Alors, une première idée de recommandation, s'il te plaît.
Alors, j'ai été chercher pas très loin pour ces recommandations. J'ai pris mes 2 autres films préférés, qui sont des films de monstres. Vous allez en manger. Hein,
pour écoutez, changer.
On va rester dans la thématique. Je vais vous recommander dans un premier temps Le Loup-garou de Londres, de John Landis, qui est sorti en 1981. Pour vous résumer un petit peu ce film, donc, comme l'indique le titre, c'est un film de loup-garou, et j'aime d'un amour incommensurable également les films de loup-garou. L'histoire, on suit deux potes américains qui font un voyage en Angleterre pour se rendre en Italie, me semble, ensuite. Donc, ils se baladent un petit peu dans la lande anglaise, dans un endroit un petit peu... t'as pas trop envie de t'y balader en temps normal. Et ils sont attaqués par un gros animal. Il y a l'un des mecs qui meurt, mais le second survit et est transporté à l'hôpital de Londres, où il commence à avoir des visions un peu étranges, dont des visions de son pote décédé qui lui dit « Bah, tu vas devenir un loup-garou ». Voilà, donc c'est un film très très cool. Grâce à ce film, on a eu le clip Thriller de Michael Jackson, aussi réalisé par John Landis. Et c'est un film très drôle en fait, c'est très anglais, c'est très cynique, avec un humour très noir. C'est un film qui fait un petit peu peur, mais qui a une histoire très particulière quant à sa conception. Et c'est un vrai petit plaisir. Franchement, Le Loup-garou de Londres, je recommande à 100%.
Au casting, David Naughton, il n'y a pas vraiment de star d'ailleurs dans ce film.
Non, il n'y a pas de grosse star, mais c'est vraiment un film qui est culte. Et aussi, ce qui est super intéressant à noter, c'est que c'est le tout premier film, enfin ce film, c'est le maquilleur qui s'appelle Rip Baker, il a reçu le tout premier Oscar qui a jamais existé, décerné au maquillage. Et je trouve que c'est vraiment super beau.
Au casting, David Naughton, Jenny Agutter, Griffin Dunne, entre autres, Le Loup-garou de Londres, un film de John Landis.
Yes.
Qui est devenu un gros producteur d'ailleurs de films derrière.
Ouais, bah il a une belle carrière, John Landis en soi. Il fait partie un petit peu de ses réalisateurs dans la même époque que Joe Dante, par exemple, qui est le monsieur qui a fait un autre film de loup-garou d'ailleurs qui s'appelle Hurlement, qui est sorti justement pas longtemps, à peu près la même période. C'était un peu la période des loup-garous exploitation. Et Joe Dante qui a fait aussi Gremlins, voilà. C'était
beaucoup de films pour enfants, hein, Small Soldiers, et puis plus tard, John Landis a beaucoup produit aussi Jumanji. Je pense à Jumanji, que ce soit le film avec Robin Williams ou le dessin animé. Je voyais tout le temps son nom en gros, donc c'est pour ça que ça me parle.
Non, j'adore John Landis, qui, bah, si on continue vers le clip, il a fait Thriller de Michael Jackson, qui a vu le film Loup-garou de Londres et qui a fait « Je veux ce mec, j'ai besoin de ce mec pour faire mon super projet de clip ». Thriller qui est le premier clip un peu court-métrage qui a jamais été fait, enfin... C'est un clip historique également, et John Landis, il a fait également le clip de Black or White.
On passe à une deuxième, seconde recommandation. Jade, s'il te plaît,
oui.
Qu'est-ce que tu as d'autre sous le pied ?
Alors, j'ai un autre film de monstre d'un autre genre qui s'appelle Phantom of the Paradise, qui a été réalisé par Brian De Palma et qui est sorti en 1974. C'est une comédie musicale qui se déroule dans les années glam rock des 70s. On y suit un jeune compositeur qui essaye tant bien de mal de faire connaître un opéra rock qu'il a composé. Il se fait remarquer par le patron d'un très célèbre label musical qui décide de lui voler son opéra pour l'inauguration du Paradise, qui est un énorme théâtre rock. Donc il fait emprisonner le compositeur, mais il s'échappe et il revient hanter le Paradise. C'est déjà une super comédie musicale. Les chansons sont... extraordinaire. Et sachez que sans ce film, vous n'aurez jamais eu l'esthétique des Daft Punk. C'est assez extraordinaire, c'est un film qui est porté par le compositeur du film qui s'appelle Paul Williams, qui a composé les musiques, mais qui joue également dedans, et que vous retrouverez justement en hommage dans le dernier album des Daft Punk, Random Access Memory, avec la magnifique chanson Touch, dans lequel Paul Williams chante, et vous aurez plein de références à Phantom of the Paradise. Enfin, c'est un sujet dont je pourrais parler pendant des plombes.
Un film qui date de 1975, il est sorti dans les salles le 25 février 1975, De Palma à la réalisation. Paul Williams au casting, William Findlay et Jessica Parker.
Oui.
Écoute, en citant ce film-là, tu vas faire un heureux. Je te recommande, comme à mes auditeurs et auditrices d'ailleurs, je vous recommande l'épisode 4 qui était avec Isaac, qui était consacré à trois films de De Palma, Mission Impossible, Scarface et L'Impasse.
Ouais, Phantom of the Paradise, c'est vraiment un film assez particulier de la filmographie de Palma. En fait, c'est vraiment un film unique et c'est tellement un mélange de plein d'histoires. Vous allez avoir le fantôme de l'opéra, vous allez avoir Faust, le portrait de Dorian Gray. Visuellement, c'est ultra riche, c'est une déclaration au cinéma de genre absolument magnifique. C'est un film unique, une super comédie musicale et je trouve qu'on n'en parle jamais trop. On n'en parle pas assez. Voilà.
En tout cas, sachez que Phantom of the Paradise est disponible sur la plateforme de Canal+ et Filmo TV. Donc Canal+, Canal VOD et Filmo TV. Jade, on a parlé là de cinéma d'horreur, mais tu parles également d'un autre type de cinéma dans ton podcast, là où je t'ai découverte et je te trouve formidable avec Mina, ça s'appelle N'importe Q. Est-ce que tu peux nous dire deux mots là-dessus ?
Alors, je tiens un podcast sur la culture de la pornographie. Donc c'est un autre type de cinéma en effet, je suis cinéphile et j'estime que quand on est cinéphile, on s'intéresse à tous les cinémas qui existent. Et c'est vrai que une fois que j'avais un petit peu freiné mon activité de chroniqueuse de films de genre, ben, j'ai commencé à m'intéresser aux films érotiques, puis à la pornographie, en me disant qu'en fait, c'était juste un cinéma comme un autre, avec ses propres codes. Et dans ce podcast, on essaye de décrypter et de vulgariser plein de choses qui touchent à la pornographie. Ça peut être des films. On a traité Emmanuel, on a traité la parodie de science-fiction Flash Gordon, qui est la parodie du film que vous connaissez tous bien, je pense, à mon avis. On traite de tags, de ce qu'on peut retrouver, on essaye d'être culturel et social, et on essaye de montrer que bah, la pornographie, certes, il y a du mauvais à raison, mais il y a aussi du bon.
D'ailleurs, vous le soulignez, hein, tout ce qu'il y a de pire, tout ce qu'il y a à éviter, vous faites des recommandations, vous parlez en plus avec un regard d'aujourd'hui, des années 2020. Voilà, ça s'appelle N'importe qui, le podcast sur la culture pornographique. Je te remercie beaucoup, Jade, d'avoir accepté de répondre à mes questions dans le film qui a changé ma vie. Merci.
Bien, merci de m'avoir invité, c'était trop chouette de parler de cinéma avec toi.
Merci beaucoup Jade, à bientôt.
Salut.
Non, l'épisode n'est pas encore fini, on n'arrête pas tout de suite son appli préférée, puisque, comme promis en début d'émission, je continue ma tournée de remerciements en lisant l'un de vos messages, laissé cette fois sur Apple Podcast, un message d'une personne dont le nom va rappeler quelque chose aux plus fidèles de l'émission. Il s'agit de Lily, qui m'écrit « Une vision intime et originale du cinéma qui replace l'œuvre dans le contexte de la vie de l'invité, parfois drôle, souvent émouvant, un bel hommage à l'impact du 7e art dans nos vies, Junior, je crois que c'est moi, est à l'écoute de ses invités, en plus d'être bienveillant, ce qui rend l'expérience agréable autant à l'écoute que lorsqu'on la vit. Merci beaucoup Lily pour ce message qui me fait vraiment plaisir. Avec ce retour d'expérience, finis les excuses pour ne pas venir dans l'émission, qui est ouverte à tous, cinéphiles ou non. N'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux si vous avez vous aussi envie de participer. Pour info pour les petits nouveaux, Lily était passée dans un épisode consacré à La La Land et il s'agit à ce jour du 2e épisode le plus écouté du film qui a changé ma vie, juste derrière celui consacré à Amélie Poulain. Voilà, faites comme Lily sur la page Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez y ajouter votre commentaire et 5 étoiles afin qu'un grand nombre de personnes puissent découvrir, tout comme vous, ce podcast. Le film qui a changé ma vie, épisode 25, c'est fini. Vous pouvez retrouver l'épisode que vous venez de suivre ainsi que tous les anciens sur vos applis streaming préférés. Les coulisses de l'émission sont à découvrir sur nos comptes Twitter et Instagram. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. À très bientôt. Ciao.